Cube Radio. Alexandre Moranville-Ouellet.
Cube Radio.
Incorruptible défenseur de la vérité. Il combat la désinformation, un argument à la fois. Journaliste dévoué, il n'est jamais à court d'arguments. Son pouvoir de persuasion brave tous les sujets de l'actualité. Alexandre Moranville-Ouellet.
Mardi 5 juillet, bienvenue à Cube Radio. Je reprends ma programmation habituelle de 9 à 10 heures. Alexandre Moranville-Ouellet avec vous pour la prochaine heure, une heure chargée en actualité, surtout qu'hier. Encore une fois, aux États-Unis, on a assisté à une autre fusillade à Highland Park, non loin de Chicago. 6 morts, de très nombreux blessés. On parle de gens, là, 26 blessés minimum, entre 8 à 85 ans. Tout ça s'est déroulé pendant un défilé du 4 juillet pour célébrer évidemment l'indépendance des États-Unis, cette fameuse date spéciale, fétiche, importante aux yeux des Américains, évidemment pour célébrer leur identité, pour célébrer leur pays, pour célébrer habituellement leur unité. Cette année, comme dans les dernières, c'est extrêmement difficile aux États-Unis. Il y a des tensions sur tellement d'enjeux. On en a parlé hier et on va en reparler aujourd'hui parce que je veux comprendre là, cette fascination, la vénération que certains Américains vouent aux armes. Il y a un lien étroit entre le fanatisme religieux et les armes à feu en ce moment aux États-Unis. Je vais recevoir un historien tout à l'heure à 9h45 qui va nous parler justement de ces tensions-là et de cette vénération des armes à feu. Hier, le président Joe Biden a encore une fois pris la parole sur les armes à feu. On peut en écouter un extrait.
You all heard what happened. You all heard what happened today. But each day, we're reminded there's nothing guaranteed about our democracy. Nothing guaranteed about our way of life. We have to fight for it, defend it, and earn it by voting.
Préserver notre démocratie, notre droit en allant voter. Il faut combattre, oui, en allant voter, mais en attendant, c'est pas les votes, c'est ce qui transparaît aux États-Unis, qui permettent même à la majorité de faire changer les choses. Les juges de la Cour suprême, entre autres, sont élus à vie, et c'est extrêmement difficile après qu'il y en ait qui soient élus, de les faire, évidemment, changer de position, changer d'avis, mais surtout, de les faire changer de poste, tout simplement et tout bonnement. Une autre histoire, évidemment, qui a attiré mon attention, là, qui s'est passée dans le coin d'Ottawa, mais c'est un homme de Gatineau qui a été remis en liberté, lui, qui avait participé à plusieurs méfaits pendant les manifestations de la liberté. Vous vous en souviendrez, au printemps dernier, à Ottawa, il y avait les camionneurs qui étaient installés dans les rues, il y a eu toutes sortes de grabuges, de méfaits, et c'est un homme, Normand Blanchfield, 33 ans, qui a été arrêté par la police d'Ottawa dans des circonstances assez drôle, on va le dire, merci. Il était en train de diffuser un fameux live Facebook, une diffusion en direct sur Facebook. Il se filmait, cellulaire à la main, au volant, pendant qu'il n'avait pas de permis de conduire. Et il diffusait là, directement en se dirigeant vers Ottawa, en parlant à diverses personnes qui le suivent sur les réseaux sociaux. Et parmi les gens qui étaient en train d'écouter, des policiers de la police d'Ottawa qui l'ont donc intercepté, téléphone à la main, en train de briser directement ses conditions en voulant se rendre à Ottawa, lui qui n'a pas le droit de s'y trouver en dehors de ses dossiers de cours. Donc un autre drôle de dossier. Il a été remis en liberté à nouveau, mais ses conditions cette fois-ci sont beaucoup plus restreintes. Un autre dossier qui commence à prendre, là, à faire effet boule de neige sur les réseaux sociaux de plus en plus, c'est ce dossier judiciaire qui a été là, un jugement qui a été rendu, qui peut sembler assez étrange et qui est dénoncé, entre autres, par certains organismes d'aide aux victimes. Le tribunal qui a accordé l'absolution à un ingénieur, Simon Hull, qui a été reconnu coupable d'agression sexuelle sur une femme en état d'ébriété, une jeune femme avec qui il étudiait là, en génie, en avril 2019, dans une fête arrosée. L'aurait agressé sexuellement, aurait même pris des photos de l'événement. Et ce que le juge utilise comme motif pour donner une absolution, donc on s'entend, il n'y aura pas de casier judiciaire, Simon Hull. Ce qu'il invoque comme motif, c'est que ça pourrait nuire à sa carrière d'ingénieur parce qu'il ne pourrait pas voyager avec un casier judiciaire, mais également que l'acte sexuel s'est déroulé somme toute rapidement. Moi, c'est extrêmement rare que j'ai entendu que la rapidité d'une agression sexuelle soit invoquée pour justifier que c'est moins grave? Est-ce que c'est le message qu'on veut envoyer justement aux victimes, aux potentiels agresseurs sexuels? C'est la question que je me pose en ce moment et je reçois Marie-Christine Villeneuve, qui est coordonnatrice aux communications et relations publiques au Centre d'aide aux victimes d'actes criminels, le CAVAC. Madame Villeneuve, bonjour.
Bonjour.
Tout premièrement, là, c'est quoi le message qu'on envoie aux victimes? Là, je viens de me le poser, mais je vous pose la question à vous. C'est quoi le message qu'on envoie aux victimes d'agressions sexuelles quand on rend un jugement comme celui-là?
Bien, c'est sûr que c'est un message qui soulève des questions parce qu'une décision dans ce genre-là peut inévitablement miner la confiance des personnes victimes dans le système de justice parce que, bon, on voit que dans ce cas-ci, l'accusé s'en tire très bien alors que la personne victime, elle, demeure avec son traumatisme, demeure avec les séquelles de cette agression-là. Et ben c'est sûr que souvent, les personnes victimes accordent quand même beaucoup d'importance au processus judiciaire et comment ça se termine pour entamer un peu le cheminement vers la réparation, vers une reprise de contrôle un peu sur leur vie à la suite de cet événement-là. Donc, c'est sûr que de voir une décision dans ce genre-là, ça peut peut-être même porter certaines personnes victimes à être un petit peu plus inquiète à dénoncer, là, avoir un peu moins confiance en le système de justice. Une sentence, en fait, qui est très surprenante parce que ça va un peu à l'encontre de ce qu'on voit depuis quelques années. On voit qu'on est vraiment plus vers la sévérité des sentences que plus vers, dans ce cas-ci, une absolution. Donc, ça respecte pas vraiment l'esprit du rapport rebâtir la confiance là qui a été établi. Parce que dans ce rapport-là, ce qu'on souhaite comme société, c'est d'avoir un souci du bien-être des personnes victimes. Et c'est sûr qu'en voyant une sentence comme ça, ben ça va à l'encontre de ce qui est inscrit dans ce rapport-là et surtout des tendances actuelles. Parce que comme je l'ai dit, on a plus tendance à voir des sentences qui sont plus sévères. On veut envoyer des messages plus forts. Alors là, qu'on est de voir cette sentence-là, on est vraiment dans un message contradictoire.
Oui, tout à fait. Parce qu'on veut justement sévir de manière plus intense pour dissuader les comportements comme ceux-là qu'on juge inacceptables. On veut mieux encadrer les victimes. Là, et la victime, dans ce cas-ci, là, a souffert de plusieurs conséquences psychologiques dites dévastatrices. Là, ça a mené à une hospitalisation. Elle a dû arrêter son parcours scolaire, un arrêt de travail de 5 mois. Ça lui a causé des difficultés financières. Est-ce qu'à ce moment-là, c'est pas une claque au visage de la victime de dire, du côté du juge, là, de dire « Ah, mais ça a somme toute duré, ça s'est déroulé somme toute assez rapidement, cette agression sexuelle-là. » C'est pas une claque au visage de la victime qui, elle, subit pas une récupération somme toute rapide. Là. Ça prend des mois pour se remettre de ça, des années.
C'est certain que la personne victime serait probablement en meilleure posture pour vous dire comment elle fait ça, mais c'est, comme je vous dis, c'est effectivement un jugement de sentence qui soulève des questions puis qui peut décourager les personnes victimes. Et j'imagine que dans ce cas-ci, la personne victime a dû prendre de travers cette décision-là et avoir de la difficulté à l'accepter. Ceci dit, nous, au CAVAC, la finalité d'un processus judiciaire, on sait que c'est important pour une personne victime, mais il faut dire que ça n'efface pas le traumatisme non plus, ce qui se passe dans le processus judiciaire et la décision qui sera rendue finalement. Les personnes victimes ont été victimes d'une expérience traumatique qui a des séquelles et la finalité du processus, ça ne vient pas effacer tout ce qu'elles ont vécu et régler tous les bobos. C'est pour ça qu'au CAVAC, on encourage beaucoup les personnes victimes, oui, effectivement, à suivre le processus parce que, comme je le disais, c'est une étape qui est importante, mais à se concentrer aussi sur d'autres aspects pour arriver à cheminer puis à passer à travers cette dure épreuve-là. Parce que quand on concentre tous nos efforts, nos énergies sur le processus judiciaire, évidemment que quand ça se termine comme ça, ça entraîne des déceptions. Et on veut donc pas qu'il y ait des déceptions et que la personne victime, au bout de cette démarche-là, se sente pas entendue, sente que ce qu'elle a vécu, ça compte pas. Donc, c'est sûr que ça doit être difficile d'entendre cette décision-là. Et c'est pourquoi on encourage les personnes victimes à trouver d'autres façons de cheminer là, vers la réparation.
Parce que la dernière chose qu'on veut avec tout ça, c'est décourager justement d'autres victimes potentielles à aller porter plainte, à dénoncer leurs agresseurs. C'est certain, comme vous le dites, là, c'est pas nécessairement la sentence qui est le point central. C'est pas nécessairement une sentence de prison titanesque qui va réparer les gestes causés, loin de là. Mais c'est plutôt dans la rhétorique pour expliquer une absolution comme celle-là. Parce que vous êtes mieux placé que moi pour nous le dire, pour expliquer à nos auditeurs, est-ce que ça arrive souvent comme ça qu'on a des absolutions qui sont liées, là, pas nécessairement seulement dans les cas de crimes sexuels, mais avec la carrière? On invoque la carrière d'une personne qui obtient l'absolution?
Ça arrive de moins en moins souvent et encore moins dans le cas de crimes sexuels, là, comme vous l'avez mentionné. Puis je parlais tantôt du rapport Rebâtir la confiance, c'est qu'au niveau de la violence conjugale, de la violence sexuelle, on a vu que les personnes victimes avaient besoin d'être mieux entendues, mieux soutenues, qu'on avait besoin de se soucier d'elles. Donc, on tend vers ça comme société. Puis le système judiciaire est en train de subir toutes sortes de modifications, notamment, par exemple, avec le tribunal spécialisé en violence sexuelle, violence conjugale. Donc, on tend vers une écoute beaucoup plus, je dirais, active des personnes victimes. Et donc, c'est pourquoi ce genre de message-là qui est passé dans cette décision, ce que vous m'avez dit tantôt, là, qu'on peut retrouver dans le jugement, ce qui a été mentionné par le juge, c'est beaucoup moins fréquent aussi. Puis, je pense que aussi, il faut le préciser pour les personnes victimes, que ça pourrait peut-être décourager ce genre d'absolution conditionnelle comme ça. Ça arrive beaucoup moins fréquemment. Et heureusement, on voit de plus en plus de décisions, comme je disais, qui vont de l'autre côté, donc qui tentent d'envoyer un message fort, un message dissuasif à l'endroit des contrevenants, ce qui peut être rassurant pour les personnes victimes. Donc, il ne faut pas uniquement voir cette décision-là. Évidemment, elle peut surprendre, elle peut choquer. C'est pourquoi on en parle aujourd'hui. Il faut en parler, mais il faut aussi, je pense, concentrer notre attention sur les autres, parce qu'il se rend toutes sortes de décisions chaque jour. Et ce qu'on voit de plus en plus, c'est des décisions qui veulent envoyer un message fort puis un message qui est dissuasif. Donc, ça aussi, il faut en parler parce qu'il faut quand même pas décourager toutes les personnes victimes à soit aller porter plainte, mais surtout à aller chercher de l'aide. Et je pense qu'il faut le rappeler, ça peut-être du côté des CAVAC, nous, là, que la personne victime ait porté plainte ou pas, on offre les services. Donc, ça aussi, c'est la voie que certaines personnes empruntent, des fois, de passer par le processus judiciaire et d'autres peut-être pas. Et d'une façon ou d'une autre, il y a des services puis il y a de l'aide pour elle.
C'est certain qu'on va encourager là, nos auditeurs, auditrices, des gens qui seraient victimes de ces agressions, de ces crimes aussi, à venir chercher les ressources d'aide de votre côté au CAVAC. Mais ça me rassure d'entendre de votre bouche, là, vous qui, évidemment, parler, traiter tous les jours avec des gens qui sont victimes d'actes, non seulement de violence, mais des actes criminels. Je suis contente d'entendre que des messages forts sont envoyés aux victimes comme ça, et surtout aux agresseurs, et que ce cas-ci ne fait pas cas de figure. Dans tous les cas, on va continuer de le suivre de près. L'avocat de Simon Hull n'a pas souhaité commenter le dossier à ce point-ci, mais le dossier devrait être porté en appel par la couronne. Donc, ça devrait peut-être modifier ce jugement-là de manière ultérieure. Madame Marie-Christine Villeneuve, coordonnatrice aux communications et relations publiques au Centre d'aide aux victimes d'actes criminels, le CAVAC, merci beaucoup d'avoir été des nôtres.
Bien, ça fait plaisir. Bonne journée.
Au revoir.
Vous écoutez Alexandre Morin-Ville-Ouellette.
Cube Radio.
La semaine dernière, le collègue Mathieu Boulay, le journaliste sportif au Journal de Montréal, qui fait des chroniques sportives avec nous, qui est à Wimbledon d'ailleurs, nous avait parlé de ces fameux dons de clonage dans lesquels qu'il utilisait pour être capable de suivre plusieurs matchs de tennis en même temps. Il a encore utilisé son fameux don de dédoublement pour suivre, en direct de l'autre bout du monde, la conférence de presse de Kent Hughes, du Canadien de Montréal, qui, hier, a pas été très, très révélateur, Mathieu, sur le futur premier choix du Canadien.
Oui, oui, mais c'est ça. Bonjour Alexandre, bonjour aux chers auditeurs aussi. oui, c'était particulier parce que moi, évidemment, je suis à Wimbledon, si je couvre les activités, mais je sais aussi qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. Et là, j'ai vu qu'il y avait un point de presse pour Ken Hughes. Et là, j'avais hâte de voir c'est quoi la grosse déclaration qu'on aurait. La grosse déclaration qu'on a eue, c'est qu'ils ne savent pas encore qui vont choisir lors du premier choix, le premier choix total du repêchage de la Ligue nationale de hockey. Alors, là, on ne sait pas si ça va être Shane Wright, Logan Cooley, Jurash Slavovski. Qui que ça va être le premier choix du Canadien? Moi, là, je vais pas mettre mon vieux 2 en papier là-dessus, là, mais moi, je pense bien que ça va être Shane Wright.
Ouais.
Hier aussi, qu'est-ce qu'on a eu comme information de la part de Ken Hughes? Premièrement, ils n'ont pas de mise à jour pour Carey Price. Et surtout, en fin de journée, hier, il y avait une rencontre avec tous les recruteurs du Canadien de Montréal, où tous les recruteurs avaient le droit de dire leur opinion sur qui le Canadien devrait sélectionner au premier rang.
OK. C'est intéressant quand même.
J'imagine là, ça a dû se régler avec une boîte de poulet Benny ou autre compagnie. puis, ils sont une vingtaine, puis ils disent tous leurs mots sur le repêchage qui s'en vient, c'est comment qu'on peut attaquer les choses. La manière qu'on a compris, c'est que le Canadien ne transigera pas pour le premier choix au total. Mais le deuxième choix de premier round du Canadien, ça se peut très bien que Ken Hughes s'en sert pour se rapprocher, au lieu de la fin de la première ronde, de se rapprocher au milieu de la première ronde.
Okay.
Donc, c'est un élément assez intéressant. Et je peux te dire aussi, ça ne surprendrait pas que le Canadien fasse des transactions demain. Demain, lors de la soirée du premier tour.
Ouais.
Parce que, ils sont en reconstruction, mais là, il faut qu'ils ajoutent des éléments, il faut qu'ils ajoutent des morceaux au casse-tête, là. Sont en train de bâtir. Là. Tu vas me dire que c'est un 5000 pièces, là, peut-être. Là.
Oui, c'est un gros casse-tête à faire, oui.
Oui, puis ça va prendre un peu de patience. Mais je pense que Ken Hughes nous prépare quelques transactions bien ciblées pour amener des bons vétérans pour entourer les jeunes joueurs de l'équipe. Soit à la défensive, soit à l'attaque. Je suis pas devin, mais je pense que c'est ça qui se prépare.
As-tu des noms en tête, toi?
Quoi? Qu'est-ce que tu dis?
As-tu des noms en tête, peut-être, de vétérans comme ça? Est-ce qu'il y en a que tu vois comme à vue de nez, comme ça, qui pourraient faire des bonnes additions aux Canadiens, ou c'est encore assez mystérieux, assez vaste,
flou,
ce bassin?
C'est flou, mais je te dirais que, premièrement, le gars qui s'en vient à Montréal ne devrait pas coûter trop cher, parce que présentement, le Canadien est à côté dans sa place de la masse salariale. Mais encore là, à côté de la masse salariale, c'est très subjectif parce qu'on ne sait pas c'est quoi le sort de Carey Price.
Ouais.
Si Carey Price s'en va sur une liste des blessés longue durée, ben là, tu viens de gagner 10 millions sur ta masse salariale. Donc, tu as une marge de manœuvre quelconque. Puis là, ça c'est ici. Peut-être qu'il y a peut-être des rachats de contrats aussi qui peuvent arriver en cours de route pour le Canadien. Il y a plus beaucoup de possibilités. Puis je te dis, l'équipe qu'on va avoir au prochain camp d'entraînement, peut-être que le visage va être vraiment différent de celui qu'on a eu à la fin de la saison. Puis j'espère que le Canadien va suivre son plan, puis qu'ils vont faire confiance aux jeunes, puis qu'ils vont ouvrir les portes aux jeunes. J'aimerais bien ça, moi, qu'un Raphaël Harvey Pinard se retrouve avec une position sur la quatrième unité. Pourquoi? Pas parce qu'il est Québécois, parce que ce petit gars-là joue pour il va se défoncer pour le Canadien de Montréal. Il va jouer comme si sa vie en dépendait.
Ouais.
C'est des joueurs de même. C'est des joueurs avec des joueurs comme Harvey Pinard, des joueurs qui vont se défoncer pour que le Canadien puisse se relancer. Ça va prendre des gars de même. Des gars qui mettent un peu de papier sablé. Des gars de talent avec Suzuki, avec Caulfield. Mais ça va prendre un ensemble, un bon mélange à gâteau, que je peux dire.
Ben oui.
On va avoir des bons ingrédients pour que, pas l'année prochaine, peut-être dans 2 ans, on va avoir une très bonne équipe sur la patinoire, puis on va se flatter, on va se donner des caresses, des gros câlins d'avoir été patient pour une saison.
Oui, parce qu'il faut être patient, mais entre-temps, ce qu'il faut faire attention, c'est de pas décourager aussi nos jeunes, justement, t'as nommé Suzuki, t'as nommé Caulfield, nos joueurs de reconstruction, là, nos joueurs d'avenir, faut pas les décourager non plus. Là, s'ils jouent avec une équipe de guenilles mouillées pour le restant, pendant une saison, 82 matchs au complet, avec une équipe qui est incapable d'aligner 2 victoires de suite, ça peut être longtemps, puis jouer sur le moral et le développement de ces joueurs-là, c'est sûr. Alors oui, ça va prendre quand même un peu là de mousse autour de nos jeunes joueurs pour que ça pousse pendant la saison. Si on vient à Wimbledon, Mathieu, ton côté, c'est le début des quarts de finale en ce moment.
Oui, aujourd'hui là quelques minutes là, le match a commencé depuis quelques minutes. Novak Djokovic est sur le central et il affronte l'Italien Yannick Sinner, 10e favori. Il n'y a pas des grandes attentes envers ce match-là parce que Yannick Sinner, là, il a seulement 20 ans, pas beaucoup d'expérience, mais un immense potentiel. Mes collègues italiens sont nerveux dans la salle de presse. Moi, je le serais pas parce que Novak Djokovic survole Wimbledon depuis qu'il est arrivé. Et il y a aussi un autre quart de finale masculin. Tu as Cameron Norrie, le local, le Britannique, qui affronte le Belge David Goffin. Une drôle de confrontation qu'on s'attendait pas au début du tournoi parce que avec les circonstances, c'est ce genre de confrontation qu'on a lors de la dernière semaine. Goffin contre Norrie, je pense pas qu'il y avait grand monde qui avait pris ça chez les parieurs. Là,
ouais. C'est sûr, c'est des noms, même moi, là, qui me reviennent pas. Je suis pas un grand connaisseur de tennis, mais c'est pas des noms, je t'avoue, qui me reviennent. Mais quand même, là, ça pour battre Novak Djokovic, ça va en prendre du vent pour Yannick Sinner, mais tout de même à 20 ans, d'être en quart de finale de Wimbledon, même si c'est une édition un peu atypique, là, tu le dis, dans la manière dont le tournoi se déroule, c'est quand même impressionnant. Ouais. Ton côté aussi, Mathieu, t'as fait une belle rencontre avec un meilleur joueur au monde, mais pas chez les professionnels encore. On parle chez les juniors. Il s'appelle Gabriel Debroux. Je t'avoue, je le connais pas beaucoup. Tu l'as rencontré?
Oui, tout à fait. C'est un Français. C'est qui que j'étais? Oui, j'étais avec l'agent de Félix Auger-Aliassime, puis j'ai vu une photo sur Facebook il y a quelques mois après Roland Garros junior. Puis là, je vois l'agent Bernard Duchesneau, qui est également l'agent de Félix Auger-Aliassime, qui pose une photo, qui est en compagnie d'un jeune junior, qui vient de gagner Roland Garros sur terre battue chez les juniors. Je dis, hey, c'est intéressant. Puis là, en parlant avec Bernard là, à Wimbledon pendant que Félix est encore ici, là, il me dit, ouais, Gabriel, il s'en vient, c'est ça. Ah, parfait, je vais le rencontrer. Puis là, Gabriel me raconte l'histoire, puis Bernard me l'a confirmé par la suite. Sais-tu comment que Gabriel est devenu client de Bernard Duchesneau, qui est un Québécois?
Non.
Ben, Bernard Duchesneau l'a vu dans une séance de frappe, un entraînement avec Félix Auger-Aliassime. Là, il voit ça. Là, il parle à Félix. Hey, Félix, es-tu bon, lui? Comment tu le trouves? Là, Félix, il te fait un pouce par en haut, il dit, hey, il est solide, le jeune, il a rien que 16 ans, là. Il est très, très solide. Fait que Bernard Duchesneau a décidé d'appeler les parents, de le proposer, de faire une offre globale, un portrait global, parce que la façon que Bernard Duchesneau travaille, il va au niveau global.
Okay.
Des objectifs au niveau des commandites, objectifs au niveau de carrière. C'est quoi tes objectifs, Gabriel? Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, tu sais, en général? Fait que qu'est-ce qui est arrivé? C'est que là, il y a une entente. C'est que Bernard Duchesneau, dans son écurie, il y a Félix Auger-Aliassime, est présentement le meilleur joueur junior au monde.
C'est quand même intéressant.
C'est une très belle prise pour Duchesneau. Et là, malheureusement, Gabriel, ce matin, a perdu en 3 manches contre un Américain dont je ne me souviens pas le nom. Mais Gabriel a eu un petit malaise au niveau du cou. Mais donc, ça a été plus difficile aujourd'hui. Mais je vous le dis, retenez ce nom, Gabriel Debroux. Ce jeune a beaucoup de potentiel. On dirait que c'est un jeune Félix Auger-Aliassime. Mmh. Là, ce qui va se développer physiquement, on va avoir la seule différence, il y a la peau blanche, l'autre a la peau foncée, mais tu vas voir dans le style, ça se ressemble beaucoup.
Ça se ressemble.
Et c'est ça qui est le fun. Puis l'attitude aussi, l'humilité. J'ai beaucoup aimé ce jeune-là à cause de son humilité. Tu sais, il dit, ben oui, j'ai gagné Roland Garros sur terre battue, mais ça veut pas dire que je vais gagner Wimbledon.
Mmh.
Puis il l'avait annoncé avant le début du tournoi. Fait que, tu sais, d'avoir 16 ans, d'avoir cette maturité-là déjà, c'est vraiment à remarquer. Puis je vous le dis, on va le voir à Montréal bientôt, ben, dans 2 ans peut-être, mais qu'il a 18 ans, mais là, c'est qu'il va être sur le circuit professionnel. Mais je vous dis de ne pas rater ces matchs parce qu'il y a un très bel avenir.
Ouais, puis rendu là, tu pourras, lorsqu'il sera dans les professionnels et qu'il brillera, on l'espère, mais tu pourras après ça dire que tu l'avais rencontré à ses tout débuts comme ça. Ça te fera une belle histoire à raconter, Mathieu. On te laisse suivre les quarts de finale à Wimbledon. On se reparle demain. Un gros merci. Salut, Mathieu.
On se reparle jeudi parce que demain, je prends l'avion de retour vers Montréal et là, on va avoir droit... on va pouvoir se reparler à une heure normale pour moi puis une heure normale pour toi.
C'est bon. À jeudi. Merci, à Mathieu. Jeudi.
Alexandre Morin-Ville-Ouellet, journaliste dévoué, il n'a pas peur de se brûler. Il touche à tous les sujets chauds de l'actualité.
Je rejoins mes collègues Julia Pagé et Rémi Villemur pour notre discussion quotidienne. Bonjour à vous deux.
Salut.
Écoutez, premier sujet qui revient, puis qui a un lien quand même assez actuel, merci, je voyais le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, là, il y a un peu moins d'une heure, publié sur son Twitter les résultats du dernier sondage des intentions de vote de QC125.com, entre autres, qui place à 19% des intentions de vote le Parti conservateur du Québec. C'est deuxième derrière la CAQ qui est encore là, en train de trôner à 35% dans ces intentions-là. Évidemment, on parle d'intentions de vote à l'ensemble d'une province. On ne sait pas comment ça peut se matérialiser au niveau des sièges, donc il faut rester prudent avec ce genre de chiffres-là. Mais tout de même, ça montre hein, qu'il y a cette montée, justement, des gens, des électeurs qui aimeraient se ranger du côté du Parti conservateur du Québec. Et tout ça, ça fait écho à un texte qui est sorti, un texte écrit par Tasha Carradine. Tasha Carradine, chroniqueuse conservatrice connue dans le National Post, c'est là qu'elle écrit. Elle est aussi là, affiliée à la campagne, à la chefferie conservatrice de Jean Charest, faut le dire. Mais elle cite dans son texte toutes sortes de raisons pour lesquelles Justin Trudeau serait en fait, selon elle, la cause qui allume certains mouvements populistes comme le Parti conservateur du Québec, comme les mouvements qui animent en ce moment le Parti conservateur du Canada. Êtes-vous d'accord que Justin Trudeau est devenu un peu, si on veut, cette espèce de catalyste, le déclencheur de ces mouvements populistes importants ici au Canada, Julia?
Oui, ben d'abord, il faut replacer un peu le populisme parce que je l'entends souvent et des fois, il est mal utilisé, même assez souvent. Le populisme, c'est une posture anti-élite, anti-establishment, en gros, qui dit que le peuple est mal servi par les élites, par ceux qu'il dirige. Et Trudeau, malgré qu'il a essayé de faire exactement le contraire, a provoqué exactement ce sentiment-là auprès d'une population, disons, grandissante. C'est, entre autres, et je pense principalement, à cause d'énormément de promesses brisées. Il se dit pour la cause des femmes, mais souvent, c'est les femmes qui vont écoper dans son cabinet lors des scandales. Il y a aussi eu des allégations d'inconduite sexuelle. Il dit pour la cause des Autochtones, part en vacances pendant le jour de vérité et réconciliation.
Ouais.
On attend toujours des actions aussi pour l'environnement, le pipeline. Bon, après ça, il y a toutes ces histoires de scandales, de blackface. Il y a eu plusieurs moments où il a voulu se positionner comme le chef des woke, disons, et où il n'a pas réussi. Donc ça, c'est une partie de la population qu'il s'aliène. Et de l'autre côté, il y a beaucoup de mal à convaincre les gens qu'il est un homme du peuple parce que ben son père occupait le pouvoir il y a quelques décennies. Il a fait les écoles privées, il est issu d'une famille très riche et ça commence à paraître de plus en plus. Certains dénotent une forme de condescendance. Donc, ils s'aliènent les plus conservateurs qu'ils trouvent un peu bourgeois déconnectés et les woke qu'ils considèrent qu'il est souvent pas en phase avec les discours.
Ouais, le terme que Tasha Carradine utilise dans son texte, c'est pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche, mais né avec une pelle en argent dans la bouche. C'est les termes qu'elle utilise, là, peu flatteur à l'égard de Justin Trudeau. C'est pas seulement, on s'entend Rémi, là, c'est pas seulement, disons, ses origines, là, qui font de lui une espèce d'élite, justement, qui s'aliène des gens qui se considèrent comme les bons citoyens, le peuple canadien.
Non, puis je suis assez d'accord avec Julia. J'ajouterais la gestion de la pandémie aussi dans ce dossier-là. Il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui sont insatisfaits de cette façon-là que le gouvernement a géré la pandémie. Le gouvernement canadien est hyper endetté. C'est les plus jeunes générations qui vont payer dans leur esprit, alors que la maladie était surtout dangereuse pour les plus âgés. Donc, il y a des gens qui n'ont pas avalé ça. Il y a eu le blackface. Hein. On se rappelle, en 2015 et 2019, premier mandat de Justin Trudeau, il commence à faire la promotion de la diversité en appel à la tolérance. Puis là, il est pris durant la campagne électorale dans un scandale de blackface et il est réélu. Oui. Il y a des gens qui se sont dit, mais attendez une minute, c'est complètement incohérent. Puis est-ce que le premier ministre du Canada est pas ici, bénéficie pas d'un traitement de faveur? T'sais? Il y a eu tous ces appels-là contre le racisme, mais là, après, le gouvernement propose un programme d'aide de 221 millions de dollars juste aux entrepreneurs noirs. Donc, tu sais, mettez-vous à la place des gens qui sont d'origine latino-américaine, d'origine asiatique, les autochtones. Ils se sont dit, mais c'est, on est-tu contre le racisme, contre la discrimination? Mais à ce moment-là, pourquoi juste un programme pour les Noirs? Il y a toutes sortes d'incohérences comme ça qui ont fait en sorte que, ben, effectivement, les gens ne croient plus en leurs institutions, une certaine partie de la population du moins, ne croient plus en leurs leaders. Puis historiquement, c'est ça qui alimente le populisme.
Oui, on pourrait croire pourtant que les subventions justement qui ont été données massivement, les injections d'argent, la PCU qui est venue aider plusieurs personnes qui avaient de la difficulté à subvenir à leurs besoins pendant la pandémie, on aurait pu croire pourtant que ce serait des mesures qui seraient populaires, presque populistes justement, pour être capable d'aller aider les gens. Mais au final... Vous l'avez dit, au niveau des conservateurs fiscaux, entre autres, ça a eu l'effet complètement contraire. Mais surtout, avec la pandémie, on se rend compte qu'il y a eu cette condescendance-là. C'est toi qui le disais tout à l'heure, Julia, parce que vous savez, moi, je m'intéresse particulièrement au mouvement complotiste, conspirationniste, et c'est pas un secret, les anti-vaccins sont plusieurs, très nombreux, même une majorité, à justifier leurs actions par des théories complotistes qui ne sont pas fondées. Mais même... dans mes études de ces mouvements-là, moi, je ne me fais pas condescendant de ces gens-là, du moins le moins possible, parce que c'est le meilleur moyen de se les aliéner, pardonnez-moi. Pourtant, c'est un peu ce que Justin Trudeau a fait, Julia.
Absolument. Moi, c'est ce que je lui reproche souvent, parce que on a l'impression qu'il prend une posture qui est très symbolique souvent, mais qui est plus payante politiquement qu'elle ne l'est réellement dans la vraie vie. Quand on prend les manifestants de haut, peu importe de quel groupe, on n'aide pas la situation. On peut être contre les anti-masques, contre les camionneurs, contre les complotistes. De les prendre de haut, ça n'aide pas. Ça n'aide en rien.
Ça a l'effet contraire, même.
Absolument. Puis là, après ça, les conservateurs ont évidemment ouvert la porte, pris l'opportunité, parce que Trudeau ne l'a pas fait. Et donc, ces gens-là vont changer du camp conservateur, qui vont peut-être leur permettre de se radicaliser d'autant plus. Puis Trudeau l'a souvent fait, là, plutôt dans le paraître que dans l'action. Et je pense qu'à force, ça use. Puis on est un peu à bout des scandales, là. Alors je doute qu'il puisse faire long feu encore pour un autre mandat.
Parce que souvent, quand on se campe autant là, du côté justement, comme le fait Justin Trudeau, là, lui se met comme, on en a parlé tout à l'heure, là, comme un peu le chef des woke. Là. Je déteste user cette expression-là, mais je vais y aller comme ça. Je pense que c'est plus simple pour résumer tout ça. Mais quand on se positionne comme ça, de manière plus drastique pour des droits, qu'on veut prendre des positions, disons, drastiques et tranchantes envers certaines franges de la population, qu'on s'aliène comme ça, mais souvent, ça laisse un vide. Et ce vide-là, il est rempli, la plupart du temps, par des leaders populistes. Un parallèle qui est intéressant à faire, c'est celui où Barack Obama est devenu président des États-Unis d'Amérique, premier président noir. Ça aliène automatiquement une partie de la population qui sent qu'il perd de son importance. Et tout ça est comblé, l'histoire le sait maintenant, par Donald Trump aux États-Unis qui, lui, exploite cette écœurantite aiguë, en bon québécois-là, d'une partie de la population, Rémi.
Oui. Là, il n'est plus au pouvoir, là, mais durant son règne, effectivement, c'est très difficile, je reviens à Justin Trudeau, c'est très difficile d'être cohérent totalement. Quand on décide qu'on défend les minorités, quand on décide d'être vigilant, sensible, tolérant, à l'écoute, il y a toujours des gens qui se constituent en minorité, par exemple les camionneurs, et qui se disent « mais pourquoi on ne bénéficie pas du même traitement de faveur ?» Il y a un épisode aussi qui est passé un peu sous le silence en 2020, là, c'était le 50e anniversaire de la crise d'octobre. Justin Trudeau, ça faisait 5 ans qu'il prononçait des excuses à toutes les communautés ostracisées dans l'histoire du Canada. De l'argent, des excuses. Et là, il arrive le 50e anniversaire de la crise d'octobre. 500 Québécois arrêtés, sans mandat. Puis là, on se dit, il va s'excuser. Évidemment, c'est son père qui est responsable de ça. On s'attendait peut-être pas à ça, mais on s'attendait à un peu plus d'attention. Rien. Donc, ce sentiment d'injustice-là, il fermente. Il continue à s'alimenter lui-même, puis sa marine, et ça sort, écoutez, ça sort pas souvent très, très bien.
Ça sort pas souvent très, très bien. C'est le cas de le dire. Autre sujet politique, encore une fois, que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, puis on va peut-être se faire des ennemis en discutant ce matin. On est trois jeunes politisés qui aiment discuter de politique. Je veux parler d'âge de politiciens. Je veux parler d'âge de dirigeants plus précisément. Parce qu'on écoutait un peu plus tôt là, à l'émission un extrait, entre autres, d'un discours de Joe Biden sur l'épidémie des armes à feu aux États-Unis, des violences par armes à feu. Hier, encore une fois, à Highland Park, 6 morts, 24 blessés, une autre fusillade pendant le défilé du 4 juillet. Ça se poursuit. Mais Joe Biden, on n'est pas les premiers à le dire, là, son âge paraît à un point exceptionnel. Il a l'air fatigué, manque de vigueur dans certains de ses discours, même celui d'hier semblait pour une fois un peu plus vigoureux. Et moi, ça me fait poser une question. Est-ce qu'on peut être trop vieux pour faire de la politique? Est-ce qu'il y a une limite à l'expérience qu'on veut bénéficier en politique, qu'on veut faire bénéficier aux autres, au prix, si on veut, là, de l'espèce de balance expérience-énergie, Julia?
C'est drôle parce qu'aux États-Unis, c'est pas la première fois qu'ils se posent ce problème. Je vole le rôle d'historien à Rémi pour parler de Ronald Reagan. Dans les années 80, s'est fait élire par une marge exceptionnelle. Je pense que c'est la plus grande marge même dans l'histoire des États-Unis. Il avait 70 ans. Oui, la question de l'âge avait été abordée, mais bon, c'est un acteur charismatique. Il a réussi à faire oublier son âge. C'est plutôt, disons, vers la fin de son règne que c'est un peu revenu dans les enjeux. Mais l'enjeu avec Biden, c'est qu'il réussit pas vraiment à faire oublier son âge. Il confond sa femme et sa sœur. Il y a eu plusieurs bourdes comme ça qui ont fait dire à ses plus vivaces critiques et même les gens dans son camp, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il est fait pour le pouvoir? Est-ce que ça va? Est-ce qu'il est sain d'esprit? Je pense pas qu'il devrait avoir vraiment une limite d'âge pour les présidents. La population habituellement pose ses propres limites là. Ouais. Je pense qu'habituellement, elle est pas particulièrement favorable aux candidats très âgés. Et je sais pas d'ailleurs si Biden aurait été élu s'il avait pas été contre Trump lui-même septuagénaire. Puis ce qui est drôle, c'est que Trump a essayé de jouer sur la question de l'âge alors qu'il avait comme quelques années en moins. Autre fait assez cocasse, il y a un article de The Atlantic qui fait remarquer que dans l'élection américaine de 2021, les trois candidats, donc Sanders, Biden et Trump, étaient nés avant l'invention du Velcro et avant l'indépendance de l'Inde. C'est comme très imagé, ça donne une idée, puis ça peut nous poser la question à savoir est-ce qu'ils sont, bien équipés pour répondre aux enjeux des populations plus jeunes. Après, je pense qu'ils sont bien conseillés, surtout Biden. Je crois que c'est pas quelqu'un de justement très populiste, très, qu'il y a pas de visée totalitariste. Alors, il écoute ses conseillers, c'est un bon garde-fou.
Mais là, je déteste reprendre des termes utilisés par Donald Trump encore une fois, mais je vais le faire pour te relancer, Rémi. Quand il parlait de low energy Jeb Bush, en parlant de ses adversaires, de Jeb Bush, parlait de gens avec peu d'énergie, sleepy Joe Biden, comme il l'appelait. Mais quelque part, des situations comme les crises que traversent les États-Unis d'Amérique en ce moment. Puis je prends l'exemple des États-Unis parce que c'est probant, là, évidemment, avec Joe Biden qui est là, qui fait un cas de figure précis qu'on peut analyser, mais un dirigeant de cet âge-là serait au Canada, serait ailleurs, puis je me poserais les mêmes questions. Est-ce que l'énergie là, nécessaire, ça prendrait de l'énergie, j'ai l'impression, pour être capable de motiver les gens à sortir, aller voter, s'insurger contre des mesures, contre les crises qui traversent les États-Unis en ce moment? Est-ce que c'est de ça, toi, tu crois qu'on aurait besoin, Rémi, pour trouver une solution aux États-Unis?
Ben, c'est sûr que le peuple américain a été habitué à un peu plus de vigueur là, chez ses présidents américains. Là, il y a deux semaines, Joe Biden s'est pété la gueule en vélo, puis c'est devenu comme une espèce de blague. La vidéo a circulé, mais c'est très symbolique là, quand le président américain est sur un vélo et qui roule est en train de freiner, puis arrive à une toute petite vitesse et se pète la gueule à terre. Là, c'est l'homme le plus puissant du monde là. Qui se casse la gueule à terre. C'est pas le président d'un pays d'Afrique centrale, là. D'accord? Donc, je veux dire, c'est très important. Par contre, moi, je vais faire plaisir à nos compatriotes d'âge d'or qui nous écoutent. Je pense pas qu'il faille légiférer sur l'âge. Je pense que Joe Biden, c'est un cas particulier. C'est un homme qui commence à vraiment s'affaiblir au plan cognitif. Mais quand on lit sur l'histoire des États-Unis, autant chez les partisans républicains que chez les partisans démocrates, on est capable à peu près de dresser une liste des 10 plus grands présidents. Puis ces présidents-là, ben, je peux les nommer rapidement, Lincoln, les deux Roosevelt, George Washington, Jefferson, Wilson, Truman, sont à peu près, là, réussissent à attirer les sympathies des deux côtés. Et ces gens-là étaient très vieux, en fait, quand ils sont arrivés au pouvoir. T'sais, un gars comme Lincoln, par exemple, est arrivé au pouvoir dans la début soixantaine, alors que l'espérance de vie aux États-Unis était d'à peu près 35 ans. Wow. Donc, il y a plein de présidents qui, c'est la même chose, sont arrivés à peu près à l'âge où, en général, les Américains meurent. Donc, c'est la même situation avec Biden. Biden est arrivé au pouvoir à 77 ans, l'espérance de vie est de 79 ans. Aujourd'hui, Biden a 79, va avoir 80 en novembre. C'est une situation qui n'est pas inusitée. Mais le vrai problème, c'est Biden. Est-ce qu'il va bien, en fait?
Mm-hmm. Oui. Ça force à quand même à se poser des questions parce que parfois, avec l'âge, oui, on s'épuise physiquement. Cognitivement aussi, tu soulignes le point. Moi non plus, je pense pas qu'il faille mettre une limite d'âge. Là. C'est complètement antidémocratique parce que tout le monde, là, dès qu'ils ont leur majorité, peuvent se mêler justement de cet exercice démocratique-là, peuvent se faire élire. C'est important. Mais je pense que, oui, l'expérience des gens est importante, mais on a tendance à négliger parfois ce qu'un individu un peu moins âgé, avec, oui, un peu moins d'expérience, mais plus de fougue, pourrait réaliser, surtout dans des moments là, de crise comme ça, où on aurait besoin, on dirait, d'un électrochoc. En tout cas, cet électrochoc-là n'est pas bien ben vivant sous Joe Biden. On se reparle demain, mes chers collègues, Julia Pagé, Rémi Villemur. Merci pour vos lumières. On se revoit demain.
Informé, cultivé, rigoureux. Il n'est jamais à court d'arguments. Savoir et comprendre. Alexandre Morin-Ville-Ouellet.
J'en parlais un peu plus tôt à l'émission, cette tragédie, une énième fusillade à survenir aux États-Unis hier dans une petite localité, Island Park, tout près de Chicago. 6 personnes abattues, 24 autres blessées pendant un défilé du 4 juillet. Un autre incident par arme à feu qui s'ajoute à tous ceux qu'on a vus dans les derniers mois. Des fusillades à Uvalde, au Texas, on en a vu également à Buffalo, on en a vu un peu partout aux États-Unis. Et ça, c'est seulement celles qui nous parviennent ici au Canada. On n'a pas, évidemment, là, le résultat de toutes ces fusillades-là. Il y en a tellement plusieurs qui surviennent. Selon le site Gun Violence Archive, qui comptabilise là, tout ça, recense ces événements par arme à feu, c'est 22 000 personnes qui ont été tuées par arme à feu depuis le début de l'année aux États-Unis. Pour comprendre un peu mieux cette situation-là, j'ai pensé que ça vaudrait la peine de s'adresser à quelqu'un qui est lui-même américain, qui comprend bien le phénomène, justement, de vénération, presque, c'est le terme que je vais utiliser aujourd'hui, envers les armes à feu aux États-Unis. Pourquoi c'est si difficile de s'en départir? Thomas Lecaq est historien de la violence politique et de la religion apocalyptique, professeur d'histoire à l'Université de Grandview en Iowa. Monsieur Lecaq, bonjour.
Bonjour, merci bien Alexandre.
C'est important de préciser, là, vous parlez un français impeccable parce que vous avez des gens d'origine française dans votre famille, ce qui nous permet là, de nous parler avec vous aujourd'hui. Monsieur Lecaq, j'ai le goût de vous poser tout premièrement là, comme question. Vous, qu'est-ce que ça vous fait comme Américain là, d'assister impuissant à une autre fusillade comme ça qui survient en plus de toute chose le 4 juillet, une date emblématique dans votre pays?
C'est le 308e fusillade dans les États-Unis cette année. Le 308e. Et ça, c'est maintenant qu'on dit ça, une fusillade, c'est quand il y a plus de 4 personnes qui étaient blessées par une mitraillade. Donc, on a arrivé à un point que, bon, c'est le 5 juillet, déjà 308. C'est épouvantable, mais à le même temps, dans les États-Unis, maintenant, c'est assez normal. Et ça, c'est la chose qui est vraiment... C'est dur de penser qu'on regarde presque plus les choses comme ça. C'est seulement parce que c'était dans une ville où on pense jamais que quelque chose va arriver. Dans Highland Park, c'est une ville très, très riche, qui a pas beaucoup de crimes. Donc, on pense pas que ça arrive là, mais c'est partout dans les États-Unis maintenant.
Ouais.
Et surtout le 4 juillet, c'est une date de fête dans les États-Unis, mais le mythologie américain, c'est surtout on pense le 4 juillet avec une sens de bon, c'est une révolution armée. Toute notre pensée sur les fusils, ça ça vient de cette mythologie que c'est le fermier, c'est le citoyen américain qui prend leur fusil, qui sort de la ville, qui bat l'armée anglaise. Bon, on comprend très bien après, si on est historien, que bon, ça n'a pas bien marché. quand des gens normaux qui prennent leur fusil pour battre l'armée anglaise, bon, ça marchait très très mal. Il faut attendre qu'on ait une vraie armée, qu'on ait l'aide de l'armée, le navire français, qu'on change beaucoup avant qu'on commence à gagner des batailles. Mais c'est le mythologie américain commence avec l'idée que c'est les gens normal qui prend une fusil, qui sort de leur maison, qui va battre l'anglais, et ça, c'est comment on arrive à une pays.
Ouais, et tout ça.
On comprend bien pourquoi ça.
Ouais, tout ça, on le souligne précisément le 4 juillet. Vous faites bien de faire le parallèle. Et de plus en plus, on associe aussi, justement, au mythe fondateur américain, il y a plusieurs volets. Vous le dites, celui d'avoir des armes, de pouvoir se défendre comme citoyen américain avec son arme, mais également, évidemment, la foi, la religion, le mandat et la volonté de Dieu autour de tout ça. Et il y a un rapprochement qui se fait de plus en plus, qui s'observe entre les évangélistes américains particulièrement et un discours, une rhétorique de plus en plus violente, mais surtout quand on parle de « guns and God ». Guns and God, les fusils et Dieu, qui est un parallèle qui se fait beaucoup. Je vais faire entendre à nos auditeurs en ce moment un discours qui a été prononcé par Lauren Boebert, qui est une représentante là, du Colorado chez les Républicains. Elle est assez marginale, merci. Elle est connue pour ses frasques. Mais voici ce qu'elle a dit récemment dans une allocution.
On Twitter, a lot of the little Twitter trolls, they like to say, oh, Jesus didn't need an AR-15. How many AR-15s do you think Jesus would have had? Well, he didn't have enough to keep his government from killing him. So...
Je résume. Elle dit, il y a plein de gens qui me disent que Jésus n'aurait pas été en faveur des AR-15, un fusil d'assaut qui est utilisé là, dans plusieurs fusillades aux États-Unis. Jésus n'aurait pas eu besoin d'AR-15, mais Jésus, justement, n'avait pas d'AR-15 pour empêcher son gouvernement de le tuer, de le crucifier. Ça peut paraître rigolo, comme ça, dit, oh, c'est une frasque, c'est une image... Mais est-ce que vous vous inquiétez, vous, de ce rapprochement-là de la rhétorique religieuse et celle des armes à feu?
Ah, absolument. Le problème, c'est qu'on aime bien l'idée que quelqu'un comme Lauren Boebert dit de bêtises. D'accord, on aime bien tous ces fracs, on rigole bien avec, mais elle comprend très bien qu'est-ce qu'elle dit. Elle sait pas, c'est pas qu'elle elle ne sait pas que, bon, pour le christianisme, il faut la crucifixion. On comprend bien. Elle comprend ça aussi. La chose qu'elle est en train de dire, c'est que, bon, pour être un bon chrétien dans les États-Unis, il faut être armé contre le gouvernement. Ça, c'est la chose qu'on doit avoir un peu de peur. C'est pas que les gens ne comprennent pas leur religion, c'est qu'ils sont en train d'utiliser leur religion pour dire quelque chose beaucoup plus dangereux. Un bon chrétien et une chrétienne armée. D'accord? C'est l'idée de croisade. Quand même, mais avec maintenant des mitraillettes. Hier, le New Hampshire, le majority leader,
okay, le leader de la majorité du New Hampshire.
D'accord. Jason Osborne a dit que bon, on doit pas payer $20 plus pour des hot dogs pour le 4 juillet. Il faut acheter plus de choses pour ton AK-47.
Wow.
D'accord. Bon, ça c'est une politique. Ça c'est le chef de majorité républicain de New Hampshire qui est en train de dire ça. D'accord. C'est pas quelque chose de simple. C'est une vénération à l'idée d'être armé contre le gouvernement. Et on a des idées politiques, on a des idées religieuses, mais c'est partout maintenant dans le discours du droit, dans les politiques américaines, ça existe partout. C'est les cartes Noël de Thomas Massie de Kentucky ou de Lauren Boebert de Colorado, ou c'est toute leur famille avec des mitraillettes, avec des AR-15, des choses comme ça. Bon, ça, c'est leur carte Noël qu'ils sont en train d'envoyer à les gens. Ça, c'est un vrai problème.
Oui. Et on est plusieurs, évidemment, on observe ça de l'extérieur, ici au Québec, au Canada. Ça peut nous sembler absurde, justement, là, cette vénération des armes, mais elle est tellement implanté, vous le dites, on refuse même de s'attaquer à certains articles ou modifier certains articles de la Constitution parce qu'on considère que c'est un texte sacré. Et même de la Bible, même chose, on l'interprète souvent de manière extrêmement littérale. À partir de là, on va où, M. Lecaq? Quelles sont les solutions? Est-ce qu'on peut changer cette mentalité-là aux États-Unis ou c'est peine perdue, il faut trouver une autre solution?
Je suis pas tout à fait sûr. J'espère, je ne suis pas sûr, mais j'espère que on a arrivé à un niveau de violence dans les États-Unis où on commence à avoir des vraies discussions de bon, finalement, il faut contrôler un tout petit peu. Je sais que la législation qui était passée dans les États-Unis, c'est bipartisan, c'est pas énorme, mais ça fait des années où on essaye de passer une loi, n'importe quelle loi, pour faire un tout petit peu de contrôle, pour en arriver à quelque chose. C'est pas assez. Mais c'est un change. Et dans les États-Unis, pendant les derniers 20 ans, on a absolument personne bouge sur l'idée de contrôle des armes. Bon, peut-être on peut commencer un discours, mais le problème, c'est que dans chaque pays, quand on commence à changer des choses, le groupe qui pense qu'il va perdre pouvoir, on a une réaction. Et la chose qui me fait vraiment peur, c'est que, bon, on a les réactions des gens comme Bobert, les gens comme ça, mais c'est tous les gens qui sont en train de faire la violence extrémiste. Ça continue. Et ça, c'est la chose qui me fait peur.
Oui, parce que vous l'avez dit plus tôt, l'idée, justement, c'est d'être armé pour empêcher son gouvernement éventuellement de nous enlever des droits. Et au moment où ce droit même-là, c'est les armes, ou du moins en partie de tenter de les réguler, ces gens-là vont sentir qu'on s'attaque à leur mode de vie, à leurs droits fondamentaux. Et malheureusement, justement, ces gens-là sont armés pour tenter de prévenir tout ça. Vraiment, M. Lecaq, vous peignez tout un portrait là, de la violence armée aux États-Unis. Et j'aurais aimé avoir plus de temps aujourd'hui là, pour vous parler. Assurons-nous là, de nous reparler dans les semaines à venir parce que vous avez une perspective vraiment intéressante. Et on est chanceux de pouvoir vous parler. Thomas Lecaq, historien de la violence politique, de la religion apocalyptique, professeur d'histoire à l'Université de Grandview en Iowa. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et bonne chance pour la suite. On se reparle.
Merci bien.
Et c'est ce qui conclut aujourd'hui notre émission. Vraiment un entretien fascinant avec le professeur Lecaq. On le recevra plus tard cet été à l'émission. C'est assuré. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Jean-François Roy qui est à la console. Ma collègue Florence Lamoureux qui est en la régie et à la recherche. Merci à tous. On se reparle demain, 9h.
Cube Radio.